La radio est un art aveugle.
Yeah, it's quite cool.
Et ensuite,
au début, c'était des déformations, c'était des coupures.
Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants.
Bonjour et welcome, bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est une série de podcasts natifs, les interviews d'Eric Cooper, qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Qui est l'acteur du podcast d'aujourd'hui? Avant de le découvrir, eh bien notre petite citation, « J'aime sortir du cinéma dans un état second, ébloui par la lumière du jour, presque étonné que le monde ait continué sa ronde sans moi. » de Michael Olivier. Notre invité aujourd'hui, celui qui a bien voulu répondre aux questions et que j'ai rencontré lors d'une journée presse à l'hôtel Pullman à Bruxelles, c'est Nicolas Destienne-Dorve qui est écrivain et journaliste français. Il a écrit un livre sur un personnage mystérieux. Le livre s'intitule « Ce que l'on sait de Max Topard » paru aux éditions Albin Michel. Alors vous allez le voir, si vous lisez le livre, vous allez vraiment vous plonger dans la lecture et dans la découverte de quelqu'un dont il ne reste aucune trace. Alors comment a fait Nicolas Destienne-Dorve pour justement écrire ce livre? Eh bien vous allez le savoir en écoutant ce podcast. Et tout de suite, Nicolas Destienne-Dorve, une première question. Est-ce que vous avez un rituel ou une discipline d'écriture?
J'ai des rituels assez précis, assez astreignants et assez contraignants même pour mon entourage. Je me lève à 5h du matin, j'écris en pyjama, en pantoufles, éventuellement en robe de chambre. J'écris très très vite, je me réveille et je suis frais en quelques minutes. J'ai besoin d'avoir un cappuccino Nescafé en poudre, un à 5 heures, un deuxième à 6 heures. Et généralement, quand je suis en phase d'écriture pure, j'ai mon plan détaillé du roman qui est déjà prêt et je m'astreins à un rythme d'un chapitre par jour. Que le chapitre soit court ou soit long, il faut que j'arrive au bout du chapitre tous les jours. Et j'écris en moyenne de 5h à 10h du matin, max 11h, ça devient déjà difficile. Et bon, ça dépend si j'ai mes enfants chez moi ou pas, parce qu'il y a la moitié de la semaine où ils sont chez moi. Donc il y a une petite pause pour petit déjeuner, habillage et départ pour l'école. Mais sinon, voilà, c'est de toute façon le matin. Je suis incapable d'écrire l'après-midi, puis la nuit, n'en parlons pas.
Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez commencé à écrire ?
En fait, à l'origine, on va en parler tout à l'heure, mais je voulais faire du cinéma ou faire de la mise en scène d'opéra. J'étais plus attiré par l'image ou par la scène, mais pas en tant qu'acteur, en tant que créateur ou comme metteur en scène. Et je suis arrivé vers les mots de façon un peu accidentelle. Je suis commencé dans la presse, où voilà, je faisais des études de lettres et je suis arrivé un peu par rencontre et par accident à faire de la critique littéraire. Et je me suis mis à lire beaucoup de livres et à force d'écrire des articles, je ne pensais pas écrire et je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire, que je le faisais assez rapidement et assez facilement. Et à force d'écrire des articles, je me suis astreint à écrire des nouvelles. J'avais des idées dans la tête et je me disais tiens, ça ferait des bons scénarios. Et en fait, je me suis dit non, si j'en faisais des nouvelles, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai écrit des nouvelles que j'ai fait publier. Et puis ensuite, j'ai jamais arrêté. De nouvelles, je passais au roman, du roman à l'essai. Et 22 ans plus tard, j'ai fait 32 bouquins. Voilà.
Donc c'était toujours dans le but d'être publié que vous écriviez. C'était pas simplement pour mettre quelques mots dans un carnet.
En fait, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de passer par cette étape-là. J'ai eu la chance parce que je suis arrivé dans la presse et mon premier livre a tout de suite été publié. Alors quand j'ai écrit mes petites histoires, mes petites nouvelles, je savais pas franchement ce que ça allait donner, mais je les ai tout de suite montrées à un copain journaliste qui m'a tout de suite présenté à des éditeurs et ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que ensuite tous mes livres ont à chaque fois été l'objet d'une, non pas d'une commande, mais en tout cas d'une forme de contrat avec un éditeur qui m'a dit « Ok, tu nous fais un roman, tu nous fais un essai, tu nous fais un dictionnaire, tu nous fais une biographie. » Et ça depuis donc 2001.
Si je comprends bien, vous faites un plan avant d'écrire un livre. Donc vous ne vous installez pas comme ça le matin, vous démarrez l'histoire et elle continue. Comment ça se passe le plan, ça veut dire que vous connaissez plus ou moins l'histoire à l'avance, les personnages, vous les connaissez, vous les créez?
Je sais absolument tout. Du début à la fin, jusque dans les moindres détails, avant d'attaquer la rédaction du livre. C'est-à-dire que je fais la documentation, ensuite je fais un plan détaillé de mon roman à partir de cette doc, quand ça demande des recherches historiques comme celui-ci. Mais même si c'est des romans plus détachés d'une réalité historique, je fais un plan très 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 précis, chapitre par chapitre, avec parfois la première phrase du chapitre et la dernière. Si c'est des romans avec beaucoup de gens, je fais une bible des personnages, exactement comme dans un scénario. avec la description physique et psychologique des personnages et leur vie avant, pendant et après l'intrigue, pour qu'ils aient une identité réelle et pour que mon lecteur et donc l'auteur aussi les prennent à l'instant T de leur vie, mais ces personnages existent avant et après le roman.
Alors pour vous inspirer, vous lisez beaucoup ou bien alors vous avez toujours un carnet en poche et vous prenez les idées quand elles arrivent ?
J'ai toujours un carnet en poche, là, en l'occurrence il est dans mon cartable, mais je prends toujours des notes, je travaille pas, disons, les mains dans les poches. J'ai toujours besoin d'avoir un carnet, un stylo, je prends des notes qu'ensuite je rassemble, je rationalise pour à la fin avoir une documentation et pour à la fin avoir quelque chose, avoir une vraie matière. C'est-à-dire que je pars pas dans un roman sans carte ou sans GPS.
Dans votre dernier roman, vous nous faites découvrir quelqu'un d'assez énigmatique. Hein. C'est Max Topard qui, en fait, s'appelait vraiment Maurice. Est-ce qu'il aurait pu exister aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le moindre geste que l'on fait, on est photographié. Tout le monde a un smartphone avec un appareil photo. Est-ce qu'il aurait pu, aujourd'hui, au XXIe siècle, être aussi mystérieux ?
On est dans les périodes totalement changées. Quand on voit les 20 premières années du cinéma, 1895-1915, c'est un art qui s'est inventé, qui est né de lui-même en 20 ans, avec une fécondité extraordinaire. Non, maintenant, c'est une époque où on regardait vers l'extérieur. Maintenant, on se regarde soi-même. Donc, c'est une époque totalement différente. Maintenant, on se scrute, on s'observe dans une espèce de période de narcissisme permanent. À l'époque, c'était le moment où on décidait de regarder le monde et de regarder le monde par le biais d'une caméra.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire ce livre ?
Je voulais écrire un livre sur le cinéma parce que c'est ma passion première, c'est une obsession que j'ai depuis toujours. Je suis fasciné par le cinéma, par l'image animée. J'y suis allé très tôt, très jeune. Mes parents m'ont emmené très très tôt voir des films. J'ai vu des films qui n'étaient pas du tout pour mon âge, extrêmement jeune. J'ai vu Orange Mécanique, Délivrance, des choses comme ça vers 9-10 ans. Donc pour moi, c'est l'image et l'image dérangeante est quelque chose de naturel et quelque chose que j'aime. Et c'est pour ça, d'abord, que j'ai voulu faire du cinéma. Et c'est pour ça, ensuite, que j'ai voulu rendre hommage à mes premières amours, parce que je suis beaucoup plus nourri, je pense, de films que je ne l'ai été de livres. Le cinéma est venu après, est venu avant, les livres sont venus après. Après, on m'a envoyé en pension, donc j'avais plus droit d'image, donc je me suis plongé dans la littérature. Mais disons que mes romans et mon univers littéraire doivent, je pense, plus même au cinéma qu'à la littérature.
Donc ça veut dire que ce livre pourrait un jour devenir un film ou une série TV, par exemple.
J'adorerais que celui-ci et que mes autres livres précédents deviennent des films, parce qu'ils sont construits comme des scénarios, ils sont scénarisés, ils sont storyboardés, comme on dirait maintenant, ils sont montés. Ensuite, ça ferait des films chers, complexes, parfois dérangeants, avec parfois incorrects, on pourrait dire maintenant. Donc ça m'amuserait beaucoup, mais je serais bien incapable de les réaliser moi-même. Et surtout, je voudrais que si un réalisateur s'y intéresse, qu'il me trahisse. Pour moi, il ne faut pas qu'un livre soit fidèle un film soit fidèle au livre. Il faut que ce soit Il faut qu'on se l'approprie complètement. C'est-à-dire les films trop fidèles au bouquin, généralement, ça tombe à côté de la plaque.
Et quel acteur verriez-vous pour jouer le rôle de Max Topard ?
Il faudra un acteur qui disparaisse. Il faudra un acteur, soit un acteur muet, soit un acteur qui n'a pas de visage. Ce serait un homme sans visage, ce serait un homme avec un masque. Donc ce serait plus fantomasque qu'un personnage réel.
Est-ce qu'il a vraiment existé, ce Max Topard ? Parce que s'il n'a pas existé, comment vous avez fait pour trouver des infos sur lui ?
Ça, c'est la question que tout le monde me pose. J'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire du cinéma. Et à un moment, le nom de Max Topard est apparu. Je ne sais plus quand, je ne sais plus dans quel livre, parce que j'ai pris des notes, je prends des notes. Et est-ce qu'il est né de mon imagination ou est-ce qu'il a vraiment... Enfin, est-ce que je l'ai vraiment aperçu ? Je ne sais plus, mais il a pris tellement de place que je pars du principe qu'il existe. Et qu'il existe à la limite encore maintenant, dans la mesure où il existe par le livre. Mais effectivement, je vous disais, j'ai fait un plan très détaillé au départ du roman. Et il y a une intrigue qui se passe dans les années 60, une autre qui sont les mémoires de Max Topard. L'intrigue des années 60, c'était 80% du livre, et Max Topard, c'était 40 pages. Et j'ai commencé à rédiger l'intrigue de Topard, et de 40, je suis passé à 300 pages. Et comme si Topard prenait les rênes de la rédaction, sa vie coulait de source, mes doigts pianotaient sur le clavier et je la voyais se mettre en scène sur l'écran de mon clavier exactement comme j'aurais vu un film sur l'écran de cinéma. Et donc Topard s'est incarné par le roman et par l'écran de mon ordinateur, donc comme si c'était déjà en soi un film. Et donc en fait Topard a enfin eu voix au chapitre, il a enfin pu prendre la parole par mon biais, mais sinon ça aurait peut-être été par le biais d'un autre auteur.
Mais vu les difficultés qu'on a pour trouver des documents, vous, quelles ont été les difficultés que vous avez eues pour écrire ce roman ?
Les difficultés, d'abord, je me suis plongé dans énormément d'histoires du cinéma, et puis ensuite, je comble les blancs, j'invente, c'est un roman, je suis romancier, et ce que j'aime, c'est faire du vrai avec du faux, du plein avec du vide, mélanger tout ça et ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est vraisemblable, ce qui est véridique. Peu importe, ce qu'il faut, c'est qu'on y croit, que le lecteur y croit, parce que moi, j'y crois.
Quelle est la part de réel? Est-ce que c'est du 50-50, 50% de romancé, 50% de réel?
Je suis pas bon en maths, on en parlait tout à l'heure, je ne suis pas bon en maths et je cherche pas à faire du calcul. Ce qui est bien, c'est que je ne sais plus. Il y a tout le travail que je fais en amont et une fois que j'ai fini ma doc, j'ai ma matière et je fais le roman. Et donc, je ne me soucie plus de ce qui est vrai, de ce qui est faux. L'important, c'est la réalité dramatique, la réalité romanesque. Mais il y a certains personnages de romans, à force de les lire, on est persuadé qu'on va les croiser dans la rue. Et pour moi, c'est ça l'important, c'est qu'ils s'incarnent et dans l'imaginaire et en fait dans l'inconscient des lecteurs et donc dans la réalité.
Alors, est-ce qu'il faut croire donc à Max Topper comme on croit à Jésus, à Moïse ou à Bouddha? C'est une question peut-être un peu dérangeante. Hein.
On ne sait pas plus si ces trois personnages que vous avez cités ont existé, sinon si ce n'est que Max Topper est plus récent. Mais ces trois personnes, en fait, qui sont en quête d'idéal et qui sont à la fois ombre et lumière, qui sont les canalisateurs d'une époque. Donc, sauf que Max Topper n'avait pas ne cherchait pas à créer une religion, si ce n'est que le cinéma pour lui était une religion. Il n'était pas une espèce de prophète, c'était un voyant, c'était un éveillé, pour le coup, comme Bouddha. C'était quelqu'un qui était en quête du Graal. Il est plus près du roi Arthur ou de Lancelot que de Jésus ou de Bouddha.
Alors vous êtes plutôt livre papier ou livre numérique?
Ah, moi je suis livre papier, mais je ne suis pas contre le livre numérique dans la mesure où je me sers d'un Kindle pour faire de la doc. C'est très pratique, ça évite d'avoir beaucoup de choses. Pour moi, le livre numérique est un outil, alors que le livre papier est un plaisir.
Alors, en préparant cette interview, j'ai trouvé sur Internet quelques infos sur vous. Vous seriez l'un des derniers dandys, d'après vous?
On me dit ça parce que je porte des vestes en velours et des couleurs un peu étranges. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque où tout le monde s'habille en noir, en foncé. Et moi, j'aime les couleurs. J'ai toujours aimé ça. Donc, on m'a collé l'étiquette du dandy parce que j'ai le coiffeur que trois fois par an et que j'ai pas des goûts un petit peu décalés. Je ne sais pas ce que veut dire le dandysme, mais... voilà, c'est-à-dire c'est facile de coller, et puis ça fait des années qu'on me dit ça, et donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne me dérange pas dans la mesure où c'est associé à des gens pour qui j'ai plutôt du respect, et voilà.
Oui, parce que c'est vrai qu'on associe ça à de l'élégance, de la finesse et du style. Est-ce que un de vos livres a déjà été utilisé dans les écoles?
Ah, pas que je sache, ça, j'aimerais bien. J'ai déjà fait des conférences sur certains de mes bouquins dans les écoles, mais je ne sache pas qu'un livre ait été programmé dans une école, enfin je pense que je le saurais, mais comme je fais des livres d'abord avec des histoires assez complexes et parfois avec des sujets très ambigus voire dérangeants, il faudra vraiment que ce soit au lycée, parce que plutôt ça risque de les effrayer, les pauvres.
Vous avez fait de la radio, entre autres chez France Musique, ça s'est pas très bien terminé, vous racontez un petit peu?
Je vois que vous avez fait vos recherches. J'ai travaillé pendant 4 ans dans l'émission de mon ami Benoît Dutertre sur France Musique, une émission qui s'appelle Étonnez-moi Benoît, qui est une émission de musique légère, d'opérette, de chansons, un répertoire que j'aime beaucoup. Avec Benoît, on partage ce plaisir-là. Et en fait, le principe, c'était que je venais une fois par semaine, par mois, c'est une hebdomadaire, mais je venais à la fin, un samedi par mois, à la fin de l'émission, pendant une demi-heure, pour faire une chronique très très désinvolte où j'apportais 5 musiques différentes et avec un petit texte de liaison, et à la fin la 5e musique était toujours un truc très provocateur, très de très très mauvais esprit, et je faisais régulièrement, j'apportais des chansons paillardes, ce genre de choses, et au bout de 4 ans et quelques 15 jours avant Noël, j'ai passé une version paillarde d'Il est né le divin enfant qui a provoqué une levée de bouclier de la part des auditeurs et d'une partie de la rédaction même de France Musique, ce qui fait que j'ai été lourdé manu militari avec une lettre de renvoi superbe avec le mot chanson cochonne dans une lettre avec accusé de réception à l'entête de France Musique, qui est encadrée dans mon bureau et qui fait la joie des gens qui viennent me voir chez moi.
C'est quoi votre chanson préférée des Beatles?
Alors là, en fait, là, vous me posez une colle parce que autant j'en parle dans mon roman des Beatles parce qu'il fallait que ce soit une chanson, mais je n'ai jamais écouté les Beatles et même j'ai des goûts musicaux qui sont un peu étranges et qui sont très décalés, qui sont soit classique, opéra, parce que ça, c'est ma passion et que je travaille dessus, soit je connais très bien la chanson française des années 20 aux années 60, mais c'est la chanson qui regarde derrière, donc je serais incapable de vous dire, de vous répondre.
Et vos projets, c'est quoi? Vous travaillez sur quel roman, qui va parler de quoi?
En fait, ce livre aurait dû sortir en avril 2020. Le bon à tirer devait partir le 16 mars. Boum, confinement, tout est gelé. Il est décalé de 2 ans. Donc, et entre-temps, j'avais déjà des livres que j'étais censé faire, parce que j'ai toujours un contrat, voire deux, sous le coude pour pouvoir continuer à avancer, parce que c'est mon métier, c'est mon gagne-pain. Je vis entièrement de mes droits d'auteur, quand j'arrive à en gagner. Et c'est pour ça que j'en fais beaucoup. Et mon prochain livre est une biographie d'Arletty, donc on reste dans le cinéma, qui sortira chez Calman Levy. Et ensuite, dans un registre totalement différent, je fais chez Plomb un dictionnaire amoureux du mauvais goût. Voilà, et les deux sont déjà finis. Mais il y en a un qui sortira l'année prochaine et l'autre l'année suivante.
Merci à vous, Nicolas Destienne-Dorve, pour avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre livre, Ce que l'on sait de Max Topard. C'est un roman paru chez Albin Michel. C'est un roman dont je vous conseille la lecture parce que je vous conseille la lecture tout simplement. Il faut savoir que tous les romans que je vous propose, dont j'interview l'auteur, je les ai lus avant. Donc je ne peux que vous le conseiller, celui-ci, comme tous les autres d'ailleurs. Alors vous les auditeurs, avant de vous lâcher l'oreille, eh bien, j'ai 2-3 petites choses à vous demander comme d'habitude. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à liker. Partagez aussi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous de façon à être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Vous laissez un commentaire si vous le voulez bien. Moi, je vous quitte. Je vous retrouve dans une semaine. Et comme d'habitude, que la force soit avec vous. Et puis, à très bientôt.
Ça y est, c'est fini.